Charles Dickens, L'horloge de Maître Humphrey. Chapitre 1er. Maître Humphrey du coin de son feu, à côté de son horloge. Ne vous attendez pas à ce que je vous indique le lieu de ma résidence. C'est un point qui, pour le moment, n'intéresse guère le public. Si, comme je l'espère, je parviens à m'attacher, mes lecteurs, s'il s'établit entre eux et moi un courant d'affection intime, et s'ils finissent par prendre quelque intérêt aux choses qui me concernent, il se peut alors qu'un jour, le lieu que j'habite ait pour eux un certain charme. J'aime mieux dans ce cas prévenir tout de suite mes lecteurs qu'ils ne doivent pas s'attendre à voir leur curiosité satisfaite. N'allez pas croire de là que je sois un vieillard hargneux et farouche. Je vis seul, c'est vrai, je n'ai pas d'enfant. Mais je n'en ai pas moins le cœur sensible et je considère un peu comme mes enfants, tous les êtres humains. Que l'existence retirée et solitaire que je mène depuis des années soit la conséquence d'un chagrin, que j'ai cherché ainsi à apaiser une douleur, à guérir une blessure, cela importe peu. Pour le moment, il suffit que l'on sache que cette retraite est devenue pour moi une habitude et que je n'ai pas le moindre désir de rompre un charme qui, depuis si longtemps, a exercé une si paisible influence sur mon foyer et sur mon cœur. J'habite dans un paisible faubourg de Londres, une vieille maison qui servait jadis de lieu de rendez-vous à de joyeux compagnons et à des femmes incomparables, disparues, hélas, depuis longtemps. L'endroit est silencieux, sombre. La cour pavée est toute remplie d'échos que je suis parfois tenté de prendre pour des réponses affaiblies et attardées au tumulte d'autrefois, pour des fantômes revenant me hanter dans mes allées et venues solitaires. Chaque bruit a pour moi un sens mystérieux. Tantôt c'est le frémissement d'une robe de brocart, tantôt le pas léger de quelque jolie fille. Écho qui s'éveille sous les pas affaiblis et traînants d'un vieillard. Ceux qui se plaisent aux descriptions d'appartements somptueux et de riches ameublements trouveront peu de plaisir ici. Mon modeste logis m'est cher précisément par la raison même qui le leur ferait tenir en médiocre estime. Ses portes vermoulues, ses plafonds bas, supportés par des poutres informes, ses murs recouverts de boiseries, son escalier sombre, ses cloisons mal jointes, ses pièces étroites, communiquant entre elles par des passages tortueux et de dangereuses petites marches, ses nombreux recoins, larges à peine comme des placards, sa poussière et son obscurité, tout cela m'est plus cher que je ne saurais dire. Le papillon et l'araignée sont mes hôtes habituels, car chez moi le premier est à l'aise pour abriter chaudement son long sommeil, et l'autre travaille en paix sans crainte de se voir dérangé au milieu de son laborieux tissage. Combien de papillons, par une chaude journée d'été, se sont élancés pour la première fois de quelques sombres coins de mes vieilles murailles vers la lumière du jour et la clarté du soleil. Lorsque j'arrivais ici pour m'installer, il y a bien des années, je surexcitais vivement la curiosité de mes voisins. Mais comme le temps passait sans que rien ne vînt satisfaire cette curiosité, elle se changea bientôt en malveillance, et je devins le centre d'une agitation populaire qui s'étendait à plus d'un mille à la ronde. Des rumeurs de toutes sortes circulèrent à mon plus grand dommage. J'étais un espion, un hérétique, un sorcier, un voleur d'enfants, un fugitif, un ermite, un monstre. Lorsqu'elles m'apercevaient, les femmes saisissaient leurs enfants et s'enfuyaient en courant. Les hommes me lançaient des regards méprisants en murmurant des menaces et des malédictions. Bref, j'étais un objet de suspicion, de défiance, je dirais même de haine générale. Cependant, lorsqu'avec le temps, mes voisins s'aperçurent que je ne leur voulais aucun mal, qu'au contraire, je leur témoignais de la bienveillance malgré leurs injustes traitements, ils commencèrent à s'adoucir. On ne m'épiait plus, les femmes et les enfants, au lieu de se sauver, demeuraient sur le pas de leur porte et me regardaient. Cela me parut d'un heureux augure, et j'attendis patiemment des jours meilleurs. Peu à peu, même, je commençais à me faire des amis. Mon bonjour, quotidien m'était rendu amicalement, les enfants s'enhardissaient au point de se laisser caresser, ils finirent même par s'apprivoiser tout à fait. Insensiblement, je me liais avec mes plus proches voisins, je devins leur ami, leur conseil, le confident de leurs soucis et de leurs peines, qu'il me fut même possible parfois de soulager. Maintenant, sur le passage de Maître Humphrey, ce ne sont plus que paroles cordiales et visages souriants. Ce fut un caprice de ma part, peut-être pour exciter la curiosité de mes voisins, et par une sorte de représailles contre leurs soupçons, ce fut, dis-je, un caprice de ma part, lorsque j'arrivais dans le pays pour m'y fixer, de ne pas donner d'autre nom que Humphrey. Pour mes détracteurs, je fus le vilain Humphrey. Plus tard, lorsque je m'en fis des amis, je devins Monsieur Humphrey ou le vieux Monsieur Humphrey. À la fin, ce fut Maître Humphrey tout court, appellation que l'on savait être la plus agréable à mon oreille. Et l'habitude en est à présent si bien prise que parfois, en faisant ma promenade matinale dans la cour, j'entends mon barbier, qui a pour moi un profond respect et qui, j'en suis sûr, n'abrégerait pas mon titre pour tout l'or du monde, publier à l'autre côté du mur les nouvelles de la santé de Maître Humphrey et communiquer à quelques amis, en substance, la conversation qu'il vient d'avoir avec Maître Humphrey en lui faisant la barbe. Pour ne pas faire la connaissance de mes lecteurs sous un masque trompeur et ne pas mériter plus tard le reproche d'avoir laissé dans l'ombre une particularité essentielle à leur exposer dès l'abord, je veux qu'ils sachent, et je souris tristement en pensant qu'il fut un temps où cette confession m'aurait singulièrement coûté, que je suis un vieillard infirme et contrefait. Cette triste circonstance ne m'a pas aigri le caractère, ne m'a pas rendu misanthrope. Jamais je n'ai été atteint par une injure ni blessé par une plaisanterie touchant à ma difformité. Si dans mon enfance j'étais mélancolique et timide, c'est que les égards bienveillants accordés à mon infortune pénétraient déjà profondément mon esprit et mon cœur. J'étais bien jeune encore lorsque je perdis ma pauvre mère. Pourtant, je me rappelle que souvent, lorsqu'elle me portait suspendue à son cou, et plus souvent encore lorsque je jouais dans la chambre à côté d'elle, il lui arrivait de m'attirer sur son cœur en fondant en larmes et de me prodiguer les caresses et les marques de la plus tendre affection. Dieu sait que j'étais alors le plus heureux des enfants, heureux de me réfugier dans son sein, heureux de pleurer quand elle pleurait, heureux d'ignorer la cause de ses larmes. Ces faits, tout accidentels, ont laissé dans mon souvenir une trace si profonde qu'il me semble avoir rempli des années entières. J'ai encore présent et vivant dans ma mémoire le moment où je compris pourquoi ma mère pleurait. Je ne sais si tous les enfants sont impressionnés comme je l'étais par la grâce et la beauté des autres enfants, mais je me souviens que, sans faire de retour sur moi-même, j'en jouissais avec une intensité indicible. Une bande de petits camarades à moi, ils devaient être charmants, car je les vois encore, se pressait un jour autour des genoux de ma mère pour admirer une image qu'elle tenait à la main et qui représentait un groupe de petits amours. Ce qu'était au juste cette image, si elle m'était familière ou non, comment tous ces enfants se trouvaient là, je n'en sais plus rien. J'ai seulement une vague idée que c'était le jour de ma fête. Mais le point de départ de ce souvenir est que nous nous trouvions tous dans un jardin et que nous étions en été. Cela j'en suis sûr, car une des petites filles avait des roses à sa ceinture. Je me rappelle qu'il me vint à l'idée de donner à chacun des petits amours de l'image le nom d'un de mes petits camarades. Quand chacun eut le sien, suivant le plus ou moins de ressemblance, je m'arrêtai et cherchai longuement à découvrir quel était celui des petits amours qui me ressemblait le plus. Je vois les enfants se regardant entre eux, je me souviens de la rougeur qui m'enflamma les joues et de l'empressement de tous mes petits camarades à venir m'embrasser en m'assurant qu'ils m'aimaient bien tout de même. Surtout, je vois encore le douloureux et tendre regard de ma mère dans lequel je lus pour la première fois la triste vérité. Je compris, en considérant ma démarche gauche et disgracieuse, la douleur poignante, la tendresse infinie de la mère pour son pauvre petit garçon infirme. Que de fois par la suite j'ai revu cette scène. Maintenant encore, mon cœur saigne pour ce pauvre enfant, comme si c'eût été un autre que moi. Pauvre, pauvre petit, combien de fois, en se réveillant la nuit et en se retrouvant rivé à sa difformité, a-t-il éclaté en sanglots sans pouvoir se rendormir? Allons, allons, toutes ces tristesses sont passées. Ce regard jeté en arrière n'aura pas été inutile. Il aidera à expliquer pourquoi j'ai toute ma vie été attaché aux objets inanimés qui peuplent ma demeure, comment j'en suis arrivé à les regarder comme de vieux et fidèles amis plutôt que comme de simples chaises de vulgaires tables si faciles et si peu coûteuses à remplacer. À tout seigneur, tout honneur. Commençons par mon horloge, ma vieille horloge, ma bonne vieille compagne. Comment dire ce qu'elle a été pour moi depuis tant d'années, ce qu'elle m'a apporté de soulagement et de consolation? Elle est intimement liée à mes plus vieux souvenirs. Je la vois, elle était dans la cage de l'escalier à la maison. Je dis encore machinalement « la maison », il y a bien près de 60 ans. C'est une raison pour que je l'aime, mais ce n'est pas seulement pour cela que j'y attache un tel prix, ni parce que c'est un véritable objet d'art dans sa gigantesque gaine de chêne, si curieusement et si richement travaillée. Je m'incline avec respect devant elle, comme si elle était une créature vivante, capable de me comprendre et de me rendre l'affection que je lui porte. Et quel autre objet inanimé pourrait me réjouir le cœur comme elle? Quel autre objet inanimé, ou même quel être vivant, aurait pu me témoigner la même amitié, patiente, fidèle, infatigable? Que de fois, dans les longues soirées d'hiver, suis-je resté assis devant elle, trouvant dans sa voix monotone une véritable société? Et quand mes yeux quittaient mon livre pour élever vers elle un regard de reconnaissance, il arrivait parfois que son cadran, éclairé par la lueur de mon feu, me semblait dépouiller sa rigidité pour me considérer avec bienveillance. Que de fois, l'été, après le coucher du soleil, quand mes pensées m'avaient ramené en arrière vers un passé mélancolique, son régulier tic-tac ne m'a-t-il pas rappelé la calme sérénité du présent? Que de fois, dans la morne tranquillité de la nuit, son timbre n'a-t-il pas rompu un silence qui m'oppressait, comme pour m'assurer que ma vieille horloge veillait toujours, gardienne sûre et fidèle, à la porte de ma chambre. Mon fauteuil, mon bureau, mon vieux mobilier, mes livres même, c'est à peine, si je puis arriver à les aimer, à l'égal de ma vieille chère horloge. Elle est là, commodément casée dans une encoignure, à mi-chemin entre le coin de mon feu et la petite porte basse qui mène à ma chambre à coucher. Sa réputation est si bien répandue dans le voisinage que j'ai souvent le plaisir d'entendre le cabaretier ou le boulanger, parfois même le clerc de la paroisse, interroger ma gouvernante, dont j'aurais beaucoup à dire en temps et lieu, pour savoir l'heure exacte à l'horloge de maître Humphrey. Mon barbier, dont j'ai déjà parlé, se fierait à elle plutôt qu'au soleil. Et ce ne sont pas là ses seuls mérites. Elle s'en est acquis un autre, je suis heureux de le dire, qui l'attache étroitement, non seulement à mes plaisirs et à mes méditations, mais encore à ceux de certaines autres personnes, ainsi que je vais l'expliquer ici. Pendant de longs mois, je vécus dans la solitude la plus absolue, car ce ne fut que longtemps après mon arrivée ici que je fis la connaissance de mon ami le sourd, connaissance qui s'accentua jusqu'à devenir une étroite et intime amitié. À l'heure présente, le croirez-vous, j'ignore encore son nom, c'est sa fantaisie de me le cacher. Sans doute il a une raison et un but en agissant de la sorte, en tout cas je trouve qu'il est dans son droit, et comme il n'a jamais cherché à pénétrer mon secret, de mon côté je n'ai jamais tenté de découvrir le sien. Cette confiance tacite a, il me semble, quelque chose de flatteur et d'agréable pour nous deux, et il est possible qu'au début elle ait ajouté un grain de saveur à notre amitié. Quoi qu'il en soit, nous nous aimons comme deux frères, et je ne sais pas son nom. Mon ami et moi, nous aimons la retraite et le travail, nous sommes tous deux solitaires. Une sorte de nuage plane sur le début de nos existences. Nous ne sommes plus jeunes maintenant, mais notre enthousiasme ne s'est pas refroidi avec l'âge. Notre goût pour le romanesque ne s'est pas calmé. Nous préférons les rêves pleins de charme aux amères réalités. Nous sommes des alchimistes qui, de la poussière et de la cendre, trouvons à extraire l'élixir de perpétuelle jeunesse. Nous allons chercher la sauvage vérité au fond de son puits pour la revêtir de mille formes légères et gracieuses. Nous savons découvrir un grain de consolation, un atome de bien dans les matières les plus communes et les plus dédaignées qui passent dans notre creuset. Fantômes des temps passés, créatures imaginaires, personnalités de notre époque, tout nous est bon, tout obéit à notre premier commandement. Mon ami et moi, nous passions généralement nos journées à rêver, chacun de notre côté, et le soir nous nous communiquions le résultat de nos rêveries. Nous n'étions que deux dans ce temps-là. À présent, nous sommes quatre. Mais comme ma chambre contient six vieilles chaises et que les deux sièges vides sont toujours placés avec les autres autour de la table lors de nos réunions, nous avons décidé de porter à six le nombre de nos membres, si toutefois nous trouvions encore deux personnes à notre idée. Quand l'un d'eux mourra, sa chaise n'en restera pas moins toujours à la même place, mais elle demeurera inoccupée à tout jamais. J'ai spécifié dans mes dernières volontés que quand nous aurions tous disparu, la maison restera fermée et les chaises vides conserveront leur place habituelle. Il nous est doux de penser que nos ombres seront libres de s'assembler comme nous l'aurons fait si longtemps qu'elles pourront se livrer entre elles à une conversation posthume. Une fois par semaine, au premier coup de 10 heures, nous nous réunissons. Au dernier coup de 2 heures, je me retrouve seul. Et maintenant, ai-je besoin de dire pourquoi ma vieille compagne, qui a toujours sonné l'heure de nos réunions et les a encouragées de son joyeux tic-tac, leur a donné son nom? Pourquoi, en raison de sa régularité et en mon honneur, notre association a été baptisée l'horloge de Maître Humphrey? Ai-je besoin de dire que, dans le coin le plus obscur de son antique caisse, à l'endroit où le paisible balancier s'agite et bat en cadence depuis des années, sans jamais s'être interrompu une seconde, ai-je besoin de dire qu'il se trouve une pile de papier poudreux constamment accumulée là par nos soins? C'est ainsi que ma vieille amie fait partie intégrante de nos plaisirs. Pour charmer notre temps, nous nous adressons au temps lui-même. Puis-je avouer le secret orgueil avec lequel j'ouvre cette singulière bibliothèque quand nous nous réunissons le soir, orgueil qui se mélange de reconnaissance quand je songe à toutes les heures charmantes que nous devons à ma bonne vieille horloge? Ah, mes amis, compagnons de ma solitude, mon amour n'est pas égoïste. Je ne voudrais pas garder pour moi seul vos mérites, mais répandre à travers le monde entier quelque chose de notre chère association, de votre image aimée. Je voudrais que votre nom éveillât chez les hommes des pensées salutaires et consolantes. Je voudrais qu'ils connussent votre existence digne et honnête. Oh, combien je serais heureux que, dans l'horloge de Maître Humphrey, il puisse trouver une œuvre bien sincèrement anglaise. Ce que contient la vieille horloge. C'est du coin de mon feu que je compte causer toujours avec mes lecteurs, et j'aime espérer que ce que je leur raconterai touchant nos histoires, nos faits et gestes, nos paisibles méditations ou nos démarches plus actives ne les ennuiera jamais. Je crains de m'être montré prolixe dès le début et de m'être attardé trop longtemps à parler de notre petit club. Toutefois, en raison de mon attachement pour ma vieille amie et de mon désir naturel de mettre en relief tous ses mérites, je succombe à la tentation d'ouvrir l'armoire que contient sa longue gaine, quoique le procédé soit irrégulier, je l'avoue, et à l'encontre de nos règlements. Le premier rouleau de papier qui me tombe sous la main est de l'écriture de mon ami le sourd. Comme j'aurai à parler de lui prochainement, il me semble que je ne saurais mieux préluder à cette agréable tâche qu'en soumettant au lecteur cette œuvre due à sa plume et confiée par lui à la garde vigilante de ma brave horloge. Le manuscrit est ainsi conçu. Introduction aux chroniques des géants. Il était une fois, J'entends de nos jours, l'année, le mois, le jour exact importe peu, dans la cité de Londres, un gros bourgeois qui réunissait sur sa tête les hautes dignités de fruitier en gros, d'alderman, de conseiller municipal et d'administrateur de la grande société pour la fabrication des sabots. À ces distinctions extraordinaires venaient encore s'ajouter le poste et le titre considérable de shérif. Et enfin, pour comble d'honneur, il était porté le premier aux fonctions si élevées et si honorables de Lord Mayor. C'était vraiment un important personnage. Son visage était comme la pleine lune, deux petits trous en vrille lui servaient Dieu, son nez ressemblait à une poire bien mûre, et sa bouche se fendait d'une oreille à l'autre. L'envergure de son gilet était célèbre et inscrite par son tailleur comme une curiosité inouïe. Il respirait comme on ronfle, et sa voix sortait étranglée de son gosier, comme si on l'eût comprimé, étouffé sous plusieurs édredons. Sa démarche rappelait celle d'un éléphant. Enfin, pour la capacité, en solide et en liquide, on ne pouvait le comparer qu'à un alderman qu'il était en réalité. Quoique arrivé au degré les plus élevés de l'échelle sociale, ce digne citoyen était parti de bien bas. Et le petit gamin maigre et efflanqué d'autrefois n'aurait jamais pu rêver d'une telle quantité de chair pour garnir un jour ses os, ni d'une telle quantité d'or pour remplir son gousset. Il s'estimait heureux dans ce temps-là de prendre son dîner à la porte d'un boulanger et son thé à la fontaine. Mais depuis longtemps, le brave bourgeois avait oublié tout cela, ainsi qu'il convient à un fruitier en gros, alderman, conseiller municipal, administrateur de la société sabotière, ancien shérif et surtout futur Lord Mayor. Et il ne l'avait jamais même aussi complètement oublié que le 8 novembre de l'année de son élévation au siège doré, symbole de cette haute dignité municipale, le 8 novembre, veille du grand dîner qu'on lui offrait à la Guildhall. Or, il arriva que, dans la soirée, comme il était assis tout seul à son bureau dans la cité, examinant le menu du lendemain, additionnant pour se distraire les douzaines de chapons gras et les litres de potage à la tortue, il arriva que, tandis qu'il se livrait à ses agréables calculs, un personnage singulier vint à l'entrée et lui souhaita le bonjour en ajoutant « Si je suis seulement de moitié aussi chargé que vous, monsieur, vous ne me reconnaîtrez assurément pas. » Ce singulier personnage n'était pas trop bien mis. Il était loin d'être gras, ni de paraître riche. Pourtant, il parlait avec une assurance modeste, il avait bonne façon et cette sorte d'air gentleman auquel seul un homme riche devrait pouvoir légitimement prétendre. Ajoutez à cela qu'il avait interrompu le brave bourgeois au moment où celui-ci, ayant additionné 372 chapons gras, les reportait en tête de la colonne suivante et que, pour comble, le greffier en chef de la ville de Londres venait de sortir en disant « Bonsoir, Milord ». Oui, il avait dit « Milord », lui, un homme bien né, bien élevé et membre de l'honorable société de Middle Temple, inscrit au barreau de Londres, qui avait un oncle à la Chambre des communes et presque une tante à la Chambre des lords, elle avait en effet épousé un père d'un caractère faible qu'elle faisait voter à son gré. Lui, cet homme, ce grand homme, avait dit « Milord, je ne veux attendre demain pour vous donner votre titre, Milord Mayor », avait-il ajouté en accompagnant ses paroles d'un salut et d'un sourire, « car vous êtes Lord Mayor de fait, sinon de droit. Bonsoir, Milord ». Le Lord Mayor élu pensait à tout cela, ce fut donc avec le sentiment des égards qu'on lui devait, qu'il enjoignit sévèrement au nouveau visiteur de sortir de son cabinet. Il reporta consciencieusement ses 372 chapons gras, puis il sortit, son papier à la main, pour aller retrouver l'étranger. « Vous souvenez-vous, demanda celui-ci en s'avançant vers lui, vous souvenez-vous du petit Joe Todihigh ?» Malgré le vin de Porto qu'il colorait, le nez du fruitier pâlit un instant, et il murmura « Joe Todihigh, qui parle de Joe Todihigh ?» Mais Joe Todihy, c'est moi, s'écria le visiteur. Regarde-moi bien, encore, encore. Me reconnais-tu à présent? Reconnais-tu le petit Joe? Quelle joie pour nous deux de nous retrouver à la veille d'un si grand jour pour toi. Oh, donne-moi la main, Jack, tes deux mains, oui, les deux, pour l'amour du bon vieux temps. Vous me faites mal, monsieur, vous m'écrasez les doigts, dit avec mauvaise humeur le Lord Maire élu. Finissons, voyons, et si quelqu'un entrait, monsieur Todihy, monsieur. Monsieur Todihy, répéta l'hôte tristement. Oh, ne vous tourmentez pas, reprit le Lord Maire en se grattant l'oreille. Ce cher ami, je vous croyais mort. Comment? Vous voilà? Et de fait, c'était là une jolie situation pour le Lord Maire, une situation qui avait bien de quoi motiver son air vexé et désappointé. Être rejeté tout à coup violemment en arrière vers un passé qu'on aimait à oublier, et c'était au moment où on était le moins en droit de l'attendre, que le compagnon de ce passé, que Joe Todihy, revenait et voulait renouer connaissance avec une grande personnalité en vue, un homme qui, le lendemain, traiterait d'égal à égal avec le premier ministre d'Angleterre, qui, pendant 12 mois, n'aurait qu'un mot à dire pour faire fermer Temple Bar, pour en défendre l'accès à tout le monde, fût-ce au roi lui-même. Mais en vérité, monsieur Todihy, reprit le Lord Maire, je n'ai rien à vous dire, je suis très contrarié, j'aurais bien donné 20 francs, c'est très ennuyeux, réellement. Il espérait, par ces paroles blessantes, arracher à son ami quelques reproches qui auraient en quelque sorte justifié sa mauvaise humeur. Mais rien de tel. Joe le regardait d'un air ferme et doux, sans desserrer les lèvres. « Ne craignez rien, je vous paierai ce que je vous dois, » continua le Lord Maire, s'agitant sur sa chaise. « Vous m'avez prêté, je crois, 1 shilling au moment où nous sommes quittés. Je vous le rendrai avec de bons intérêts. Je fais toujours mon devoir, monsieur, toujours. Passez donc à Mansion House après-demain vers le soir et demandez mon secrétaire particulier. Il aura un chèque à vous destiner. Je n'ai pas le temps de causer davantage avec vous, pour l'instant, à moins... » Il hésitait entre le désir de briller tout à coup de tout l'éclat de sa gloire aux yeux de son ancien compagnon et la défiance que lui inspirait la mise de ce dernier, plus râpé encore sans doute que la demi-obscurité ne permettait de le constater. « À moins que vous ne vouliez assister demain à mon banquet, je pense que vous n'avez pas d'invitation, si vous voulez prendre celle-ci. » Savez-vous qu'il y a des gens qui, pour en avoir une semblable, donneraient leurs deux oreilles? Son vieil ami prit la carte sans souffler mot et disparut à l'instant. Son visage hâlé et ses cheveux gris demeurèrent un instant présents à l'esprit du gros bourgeois, mais quand il arriva au chiffre de 381 chapons gras, il avait totalement oublié Joe Todihy. Celui-ci n'avait encore jamais mis le pied dans la capitale de l'Europe. Ce soir-là, il arpenta les rues de long en large, ahuri par la quantité d'églises et de monuments publics, la splendeur des magasins, les magnificences entassées de tous côtés, la lumière éclatante qui les éclairait, la quantité de passants qui couraient ici et là, indifférents en apparence à toutes ces merveilles au milieu desquelles ils s'agitaient. Mais quelle tristesse de ne pas rencontrer, dans toutes ces rues interminables, dans tous ces vastes squares, un seul visage familier. Ce fut presque avec soulagement que le pauvre isolé se retrouva dans une ruelle écartée et entendit résonner ses propres pas sur le pavé. Il rentra à son auberge avec l'idée que Londres était bien triste, bien désolée, et intérieurement disposé à croire que, parmi tous ces membres de la compagnie sabotière, on ne comptait pas un homme de cœur. Il se coucha enfin et rêva que le Lord Maire et lui étaient redevenus des gamins. Le lendemain, il se rendit au dîner, et quand, dans un éclat soudain de lumière et de musique, au milieu de ce cadre magnifiquement décoré, son ancien ami, escorté par une suite brillante, apparut à l'entrée de la grande salle, ce fut un concert d'applaudissements et d'acclamations. Joe l'applaudit et l'acclama lui-même. Pour un peu, il l'eût crié. L'instant d'après, il maudissait sa faiblesse et prenait en grippe un vieillard à la mine gaillarde, assis en face de lui et qui n'avait eu d'autre tort que se déclarer, dans tout l'orgueil de son cœur, qu'il était fabricant de sabots. À mesure que le banquet s'avançait, Joe sentait son cœur se serrer de plus en plus, et quand l'assistance fut dispersée et dirigée vers la salle de bal, il se mit à arpenter tout seul les galeries et les appartements, ruminant avec mélancolie le désappointement qu'il avait éprouvé. Tandis qu'il flânait ainsi, en digérant sa colère, il trébucha sur les premières marches d'un escalier sombre, humide, étroit, qu'il gravit machinalement. Il arriva ainsi dans une petite galerie vide et abandonnée. De ce poste élevé, d'où il dominait la salle du banquet, il s'amusa à observer le domestique qui faisait nonchalamment disparaître les traces du festin et vidait bouteilles et verres dans leur gosier avec la plus louable persévérance. Peu à peu, son attention se relâcha et il s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il crut rêver encore et se frotta les yeux. Non, c'était bien le clair de lune qui illuminait la fenêtre de l'est. Toutes les fenêtres étaient éteintes et il était seul. Il prêta l'oreille, mais aucun bruit dans toute l'étendue des galeries sonores, pas même celui d'une porte que l'on ferme, ne troubla le silence profond. Il descendit les marches à tâtons, mais en bas il trouva la porte verrouillée de l'intérieur. Il fallut bien se rendre à l'évidence. Sans doute, il s'était endormi, il avait dormi longtemps, on l'avait oublié, et il était enfermé pour le reste de la nuit. Au premier moment, cette pensée fut loin de lui être agréable. Toutefois, il prit son parti de l'incident et décida de remonter l'escalier pour tâcher de s'installer le plus commodément possible dans la galerie jusqu'au matin. Au moment où il retournait sur ses pas pour mettre ce projet à exécution, les horloges sonnèrent 3 heures. Lorsque les premières vibrations s'éteignirent, le silence sembla plus épais et plus intolérable encore. Joe Todihye tendit l'oreille et concentra son attention dans l'espoir que quelque horloge en retard sur ses compagnes aurait encore à sonner. Il cherchait en même temps à percer l'obscurité profonde qui l'environnait et qui, à la fin, lui parut se transformer en un rideau noir parsemé de centaines d'yeux réfléchissant les siens. Mais hélas, les horloges se taisaient et notre pauvre ami n'entendait que les rafales du vent qui gémissaient autour de lui. L'heure et les circonstances étaient propices à la réflexion. Il essaya de ramener ses idées vers le courant, bien désagréable cependant, qu'elles avaient suivi dans la journée. Il pensa au désir romanesque qu'il avait eu de serrer encore, avant de mourir, la main de son vieil ami. Il mesura l'immense et cruelle différence qu'il y avait entre l'accueil reçu et l'accueil depuis si longtemps espéré. Puis, tout troublé encore de s'être réveillé dans une telle solitude, il ne put s'empêcher de se rappeler l'histoire de gens d'un courage éprouvé qui, enfermés la nuit dans les souterrains, les églises ou d'autres lieux tout aussi sombres, en étaient sortis en franchissant des obstacles inouïs et avaient fui le silence comme il ne leur était jamais arrivé de fuir le danger. Le clair de la lune de la fenêtre lui revint alors à l'esprit. Il se dirigea à tâtons vers l'escalier en colimaçon, qu'il remonta mais à pas de loup et comme s'il craignait d'être entendu. Il fut bien surpris lorsque, en approchant de nouveau de la galerie, il y vit une clarté. Plus surpris encore quand, s'étant avancé en toute hâte et regardant de tous côtés, il ne put arriver à découvrir le point lumineux d'où elle provenait. Mais sa stupéfaction ne connut plus de bornes à la vue de la scène qu'il avait devant les yeux. Les statues des deux géants, Gog et Magog, hautes de plus de 14 pieds, celles mêmes qui se dressent encore aujourd'hui à Guildhall, ces deux statues étaient douées de vie et de mouvement. Les génies, gardiens de la cité, avaient quitté chacun son piédestal, l'un d'eux s'appuyait nonchalamment contre la grande fenêtre à vitraux, l'autre, poussant du pied un grand tonneau qui semblait rempli de vin, éclata d'un rire triomphant qui retentit dans la salle comme un tonnerre. Instinctivement, Joe Todihye se baissa jusqu'à terre, il sentait ses cheveux se dresser, ses genoux s'entrechoquer et une sueur glacée inonder son front. Cependant, la curiosité finit par l'emporter sur tout autre sentiment, et à peu près rassuré par la bonne humeur des géants qui semblaient ignorer sa présence, il gagna en rampant un coin de la galerie, s'y cacha de son mieux, et risquant un œil derrière une balustrade, il les observa attentivement. Première nuit des chroniques des géants. Se trouvant vers son compagnon, le plus vieux des géants prononça ces paroles d'un ton grave et majestueux. « Magog, cette joie est-elle décente pour un géant gardien de la cité? Est-ce la conduite qui convient à un esprit vigilant quand sur sa tête invulnérable ont roulé tant d'années, ont passé tant de souffles divers, quand pour ses narines subtiles l'odeur de la corruption, de la cruauté, du crime, du massacre et du sang est devenue aussi familière que l'air respirable pour les humains, quand devant ses yeux le temps a rentré la moisson des siècles, fauché tant de vanité, d'affection, d'espérance et de douleurs humaines. Souvenez-vous de nos conventions, la nuit touche à sa fin, les fêtes, les réjouissances, la musique ont empiété sur nos heures habituelles de solitude. Bientôt, nous allons être à demain, avant que nous soyons de nouveau réduits au silence, souvenez-vous de nos conventions. » Et prononçant cette dernière parole avec plus d'impatience peut-être que n'en comportait en apparence son âge et sa gravité, le géant étendit un long bâton qu'il tient encore à la main et dont il frappa vigoureusement la tête de l'autre géant. Le coup fut si rudement porté, ma foi, que ce dernier éloigna vivement de ses lèvres le tonneau qui y était collé et, saisissant son bouclier et sa hallebarde, se mit en attitude de défense. Mais son irritation ne fut pas de longue durée, et, déposant ses armes aussi rapidement qu'il les avait prises, il répliqua en ces termes. « Vous savez, Gog, mon vieux, que lorsque nous aimons ces figures, auxquelles les Londoniens d'autrefois attribuaient, non sans raison, la garde de leur cité, nous sommes accessibles à quelques-unes des faiblesses de l'espèce humaine. Aussi, quand je bois du bon vin, j'éprouve certaines impressions joyeuses. Donc, Gog, étant donné surtout que votre bras n'est pas des plus légers, laissez votre bâton en paix. Autrement, nous pourrions bien nous disputer. Demeurons en paix. » « Amen, » dit l'autre, en reposant son bâton dans le coin de la fenêtre. « Mais pourquoi riez-vous tout à l'heure ?»« Je pensais, » répliqua le géant Magog, en posant de nouveau la main sur le tonneau, « au propriétaire de ce vin qui, il y a 30 ans, l'enferma dans sa cave, bien à l'abri de la lumière du jour, pour l'améliorer. Il avait 50 ans lorsqu'il l'ensevelit ainsi, et pourtant il ne prévoyait pas que lui-même serait bon à manger pour les vers avant que son vin ne fût bon à boire. Il doit en rester bien peu de choses à présent de ce pauvre homme. » « La nuit touche à sa fin, » observa tristement Gog. « Je le sais, » poursuivit son compagnon, « et je vois ton impatience. Mais regarde un peu à travers cette fenêtre exposée à l'est et qui nous fait face, si bien que chaque matin, les premiers rayons du soleil levant dorent nos visages de titans. Regarde la lune darder sa lumière sur les dalles. Ne dirait-on pas une cascade d'argent ruisselant à travers ces pierres glacées pour se précipiter dans la crypte au-dessous de nous ? La moitié de la nuit est à peine écoulée, et la grande ville que nous gardons dort d'un profond sommeil. » Ils se turent et levèrent la tête vers la lune. En les voyant rouler leurs yeux noirs et farouches, Joe Todihai fut pris d'une telle épouvante qu'ils ne respiraient qu'à peine. Pourtant, ils ne s'aperçurent pas de sa présence et continuèrent à se croire seuls. « Nos conventions, reprit Magog après un silence, si je les ai bien comprises, consistent en ceci. Au lieu de veiller ici en silence dans la tristesse de la nuit, nous devons nous raconter l'un à l'autre les histoires dont nous avons été témoins, les récits du passé, du présent et de l'avenir, les légendes de Londres. Chaque nuit, quand la cloche de Saint-Paul sonne le premier coup de minuit et que le mouvement et la parole nous sont rendus, nous devons nous entretenir ainsi et ne cesser notre conversation que lorsque la première lueur grisâtre du jour apparaît. C'est bien cela, n'est-ce pas vrai, frère ? Oui, répondit le géant Gog, tel est le pacte arrêté entre nous. La nuit s'avance, il faut commencer, Magog. Joe, qui commençait à se rassurer un peu, rassembla toutes ses facultés par un grand effort et entendit distinctement le géant s'exprimer en ces termes. Au XVIe siècle, sous le règne de la reine Élisabeth de glorieuse mémoire, bien que ces bienheureuses années aient été tristement souillées de sang, il y avait dans la ville de Londres un jeune apprenti, assez hardi pour aimer la fille de son patron. Sans doute les murailles de la ville contenaient plus d'un apprenti dans ces conditions, mais celui dont je parle se nommait Hugh Graham. Ce Hugh travaillait chez un brave armurier qui habitait le quartier de Chape et que l'opinion publique disait « fort riche ». Dans ce temps-là, l'opinion publique était exactement aussi infaillible que de nos jours. Néanmoins, alors comme aujourd'hui, il lui arrivait quelquefois de tomber juste par accident. Or, elle était précisément dans le vrai, en prêtant au vieil armurier une véritable mine d'or. Son commerce avait été singulièrement prospère sous le règne d'Henri VIII, qui encourageait autant que possible l'exercice de l'arc parmi ses sujets. Aussi était-il généralement admis que Miss Alice, sa seule fille, était de tout cet opulent quartier la plus riche héritière. Le jeune Hugh avait souvent appuyé de son poing et de son bâton l'opinion qu'elle en était aussi la plus jolie. Rendons-lui justice, ce n'était là que la stricte vérité. Si Hugh avait pu gagner le cœur de la jolie Miss Alice en enfonçant de force cette conviction dans la tête de ses contradicteurs, il n'aurait pas eu lieu d'être inquiet. Mais quoique la fille de l'armurier sourit en secret au récit des actions d'éclat qu'il accomplissait pour l'amour d'elle, quoique sa petite servante rapportât à Hugh tous ses sourires et même d'autres avec, et quoi qu'il en coûtât à notre apprenti bien des baisers et bien des pièces de monnaie pour récompenser la fidélité de la petite servante, il ne faisait aucun progrès dans le cœur de Miss Alice. Il n'osait pas lui avouer tout bas son amour sans avoir reçu d'elle des encouragements plus explicites, et elle ne lui en donnait aucun. Les soirs d'été, lorsque, après l'heure de la prière, elle restait assise devant sa porte, et que lui faisait des armes avec des jeunes apprentis du voisinage, un regard de son œil noir enflammait le sang de Hugh, au point qu'aucun de ses camarades ne pouvait lui résister. Mais, hélas, Alice regardait les autres avec la même bienveillance. À quoi bon vaincre si le vainqueur et le vaincu avaient droit au même sourire? Et pourtant, Hugh aimait chaque jour davantage. Toute la journée, il pensait à elle, toute la nuit, il en rêvait. Ses moindres paroles restaient gravées au fond de son cœur, il palpitait de joie lorsqu'il entendait le son de sa voix ou le bruit de ses pas dans l'escalier. Pour lui, la maison du vieil armurier était habitée par un ange, par une fée, et il eût trouvé tout naturel de voir éclore des fleurs sous les pas de sa belle. Hugh rêvait de se distinguer sous les yeux de sa bien-aimée. Parfois, il se représentait, la maison prenant feu au milieu de la nuit, tandis que les autres reculaient épouvantés, ils se voyaient volant au secours d'Alice à travers les flammes et la fumée, et la saisissant dans ses bras pour l'arracher à la mort. D'autres fois, il imaginait une émeute. Des rebelles attaquaient la ville, dirigeant spécialement un assaut terrible contre la maison de l'armurier, et il se voyait, lui, tombant devant la porte, percé d'innombrables blessures en défendant Miss Alice. Si seulement il eût pu accomplir quelque action d'éclat, quelque merveilleux exploit, et lui faire savoir ensuite que c'était elle qui le lui avait inspiré, il lui semblait qu'il serait mort content. Parfois, l'armurier et sa fille sortaient vers l'heure fashionable de 6 heures pour aller souper chez quelque important personnage des environs. Dans ces occasions, Hugh, portant sa cotte bleue d'apprenti avec toute l'élégance dont un apprenti est capable, les suivait avec une lanterne et, armé de son fidèle gourdin, il les escortait rentrant. Ces moments-là étaient les plus beaux de son existence. Tenir la lumière pour éclairer les petits pas de Miss Alice, toucher sa main pour l'aider dans les endroits difficiles, sentir son bras s'appuyer sur le sien, quelquefois elle en arrivait là. Quelle félicité, Seigneur! Quand la nuit était belle, Hugh suivait par derrière, les yeux rivés sur la gracieuse silhouette de la jeune fille, tandis qu'elle et son père marchaient devant lui. Il parcourait ainsi les petites rues sinueuses de la cité, tantôt passant sous les pignons surplombant la vieille maison de bois d'où pendaient en grinçant des enseignes, tantôt sortant du fond de quelque ruelle obscure et menaçante pour déboucher en plein clair de lune. Quelquefois, Miss Alice, effrayée par les cris de quelque braillard ivre, se retournait et lançait un regard timide à Hugh, semblant l'implorer pour qu'il se rapprochât d'eux. Comme il brandissait alors son gourdin et souhaitait d'avoir à lutter contre une douzaine de vauriens pour l'amour de Miss Alice. Le vieil armurier prêtait parfois de l'argent aux galants de la cour. Aussi arrivait-il souvent à des gentilshommes superbement vêtus de descendre de cheval à sa porte. Le brave homme voyait devant chez lui plus de panaches flottants et d'élégants coursiers, plus de soie brodée et de velours pailleté dans son obscure boutique et dans son arrière-boutique plus obscure encore qu'aucun autre marchand de la cité. Car dans ces temps, tout comme aujourd'hui, les cavaliers les plus riches d'apparence n'étaient pas ceux qui avaient le moins besoin d'argent. Parmi ces brillants visiteurs, il y en avait un qui venait toujours seul, et comme il n'avait pas d'écuyer, c'était Hugh qui tenait son cheval, tandis qu'il s'enfermait avec le vieil armurier. Un jour, comme il sautait en selle, il aperçut Miss Alice assise à une fenêtre. Avant qu'elle eût eu le temps de se retirer, il avait ôté gracieusement son magnifique chapeau empanaché et il lui avait envoyé un baiser. Hugh le vit s'éloigner en caracolant et rougit d'indignation. Mais combien il rougit plus fort encore quand, levant les yeux vers la croisée, il aperçut Miss Alice qui suivait l'étranger du regard. Celui-ci revint, et souvent, habillé chaque fois plus splendidement encore, et toujours Miss Alice se montrait à la petite croisée. Enfin, un jour, jour de deuil, elle s'enfuit de la maison. Elle avait dû longuement et cruellement hésiter, car tous les objets qu'elle tenait de la générosité de son vieux père étaient épars dans la chambre, comme si elle n'avait pu se séparer d'eux, comme si elle avait su qu'un jour viendrait où tous ses souvenirs de son amour filial lui tortureraient le cœur. Puis elle était partie. Elle avait laissé une lettre recommandant son pauvre père à l'affection de Hugh et souhaitant à celui-ci d'être plus heureux qu'il n'aurait pu l'être avec elle car il méritait l'amour d'un cœur meilleur et plus pur que le sien. Quant au pardon du pauvre homme, disait-elle, elle n'avait pas le courage de l'implorer, mais elle appelait sur lui la bénédiction de Dieu et terminait ainsi sa lettre, toute baignée de larmes. Au premier moment, le vieillard, désespéré et affolé, courut se jeter aux pieds de la reine pour demander vengeance. Mais que faire? Contre qui exercer sa vengeance? Tout ce qu'il put savoir, c'est que sa fille avait été emmenée à l'étranger. En effet, au bout de quelques années, il arriva de France une lettre de son écriture, toute tremblée et presque illisible. Elle disait qu'elle pensait souvent à son foyer et à sa chère petite chambre de jeune fille, qu'elle avait rêvé que son père était mort sans vouloir lui pardonner et qu'elle avait le cœur brisé. Le pauvre armurier, lui, traîna encore quelque temps. Il s'attachait chaque jour davantage à Hugh, car il savait, maintenant, qu'il avait aimé sa fille, et c'était là le seul lien qui le rattacha à la terre. Ce lien se brisa à la fin, il mourut, laissant à son ancien apprenti toute sa fortune et le chargeant solennellement à son lit de mort de venger son enfant si jamais celui qui avait brisé sa vie se trouvait sur son chemin. À dater de la fuite d'Alice, les jeux d'adresse, la lutte, l'escrime, les exercices auxquels Hugh consacrait d'ordinaire les longues soirées d'été n'eurent plus aucun attrait pour lui. Il était comme un corps sans âme. Plus jamais on ne le vit sourire, ni se mêler aux divertissements, aux réjouissances de ses concitoyens, parmi lesquels cependant il s'acquit une belle situation et une grande réputation. Brave, bienveillant, généreux, il était aimé de tous. Ceux qui connaissaient son histoire le plaignaient de tout leur cœur, et ceux-là étaient nombreux, je vous assure. Le soir, lorsqu'il se promenait seul dans les rues, les gens du peuple, même les plus humbles, retiraient leur bonnet et lui témoignaient une sorte de brusque mais respectueuse sympathie. Un soir de mai, c'était l'anniversaire de la naissance d'Alice et 20 ans s'étaient écoulés depuis sa disparition, Hugh, les cheveux tout gris, bien qu'il fût encore dans la force de l'âge, était assis dans la petite chambre où la jeune fille avait passé ses premières années. Absorbé dans ses vieux souvenirs, il était là depuis des heures. La nuit était venue tout à fait, lorsque, soudain, un coup, timidement frappé à la porte d'entrée, vint le tirer de sa rêverie. Bien vite, il descendit. À la lueur d'une lampe qu'il avait prise en chemin, il aperçut, en ouvrant la porte, une forme féminine, prosternée sur le seuil. Cette forme s'élança vivement, le frôla, et gravit l'escalier comme une ombre. Étonné, il se pencha au dehors pour voir si quelqu'un la poursuivait, mais il ne vit personne. Il se demandait s'il n'était pas le jouet d'un rêve, lorsque, subitement, un vague soupçon de la vérité lui vint à l'esprit. Il verrouilla la porte et monta comme un fou. Oui, elle était bien là, là, dans la pièce qu'il venait de quitter, dans sa chère petite chambrette, témoin des jours heureux de sa jeunesse. Mais si changée que personne, excepté lui, n'eût pu se faire la moindre idée de ce qu'elle avait été jadis. Oui, elle était là, agenouillée, les mains crispées de douleur et de honte sur son visage en feu. « Seigneur, Seigneur !» s'écriait-elle, « faites que je meure à présent. Hélas, j'ai apporté sous ce toit la mort, la honte et la douleur. Mais, Seigneur, j'ai tant souffert. Permettez que je meure ici et pardonnez. » Le visage crispé, les yeux secs, elle frissonnait de tous ses membres en regardant autour d'elle. Tout dans son ancienne chambre était à sa place accoutumée. Son lit, elle semblait l'avoir quitté le matin même. La vue de ces objets familiers, témoignage muet du tendre souvenir qu'on lui avait gardé, le souvenir de sa honte, c'en était trop, elle éclata en sanglots et s'affaissa sur le sol. Au bout de quelques jours, le bruit se répandit que la malheureuse fille de l'armurier était de retour et que maître Graham lui avait donné l'hospitalité chez lui. On raconta également qu'il lui avait restitué sa fortune pour qu'elle pût l'employer en œuvre de charité, qu'il lui avait solennellement promis de donner asile à sa solitude, mais qu'il s'était convenu de ne plus se revoir jamais. Ces bruits passionnèrent toutes les épouses vertueuses et les jeunes filles du quartier, surtout lorsque l'installation de maître Graham dans une autre maison très rapprochée sembla leur donner quelque consistance. Toutefois, l'estime où on le tenait fit que personne n'osa le questionner à ce sujet. Et comme la maison de l'armurier demeurait hermétiquement close, comme personne n'en sortait jamais, toutes les honnêtes commères du voisinage furent d'avis qu'aucune femme ne pouvait habiter là. Toute cette émotion était à peine calmée lorsqu'un édit royal vint surexciter à un vif degré l'opinion publique. Cet édit blâmait énergiquement la coutume répandue de porter de longues rapières espagnoles d'une longueur déraisonnable, coutume de fanfaron et de matamor, ne tendant qu'à favoriser les effusions de sang et le désordre public. Sa Majesté ordonnait donc qu'à certains jours déterminés, des notables citoyens, désignés à cet effet, fissent la garde aux portes de la ville et en défendissent l'entrée à tous ceux qui porteraient des rapières excédant, ne fût-ce que d'un quart de pouce, la longueur réglementaire de 3 pieds. Aujourd'hui, 2 citoyens, 2 notables, s'établirent à chacune des portes de la ville. Un détachement de la garde civique était chargé d'assurer l'exécution des ordres de la reine et d'arrêter, le cas échéant, les factieux assez téméraires pour les discuter. Un autre citoyen portait la mesure, un étalon de 3 pieds et les instruments nécessaires pour ramener aux dimensions prescrites toutes les épées récalcitrantes. Conformément aux ordres donnés, maître Graham et un autre furent postés à Sudgate sur la hauteur où s'élève Saint-Paul. Une assistance considérable s'était réunie en cet endroit. Outre les personnages officiellement chargés de l'exécution de l'ordonnance, il y avait là une foule bigarrée, assemblage de spectateurs de toute espèce, qui poussait de temps en temps les clameurs et les cris appropriés aux circonstances. Un jeune seigneur, mis avec recherche, parut le premier. Il tira de son fourreau une épée d'acier bruni qui reluisait et étincelait au soleil. Le jeune homme souleva sa toque, poussa un vigoureux « Vive la reine !» et passa au milieu des applaudissements de la populace. Puis il en vint un autre qui, meilleur courtisan encore, portait une épée longue de 2 pieds seulement. La foule éclata de rire, ce dont souffrit beaucoup la dignité de sa grâce. Le troisième était un vieux grognard d'officier dont la rapière dépassait d'au moins un pied et demi le bon plaisir de la reine. De grands cris de joie retentirent. Enfin, en voilà une qu'on allait briser. Mais grand fut le désappointement quand le vieux guerrier, débouclant froidement son ceinturon et son épée, ordonna à son écuyer de les remporter chez lui. Après quoi il passa désarmé au milieu de tous les badauds indignés. Ceux-ci se calmèrent quelque peu en poursuivant leur huée. Un grand diable aux allures de Matamor, armé d'une rapière démesurée, qui, en voyant le sort réservé à sa bonne lame, s'arrêta court et, après un instant de réflexion, s'en retourna par où il était venu. La foule commençait à s'impatienter. Il était midi, tous les cavaliers de qualité, ou ayant quelque apparence, se dirigeaient vers le parvis de Saint-Paul et aucune épée n'avait encore été brisée. Pendant tout ce temps, maître Graham s'était tenu à l'écart, se renfermant strictement dans les fonctions qui lui avaient été départies et se préoccupant peu de tout le reste. Tout à coup, on le vit s'avancer au-devant d'un seigneur richement habillé qui, suivi d'un valet, gravissait à pied la colline. À la vue de ce personnage, la foule cessa ses clameurs. Il se fit un mouvement général vers le nouveau venu, sur lequel tous les regards se portèrent avidement. Maître Graham se tenait seul à la porte, l'étranger s'avançait lentement, et il se trouva bientôt devant lui. Le gentilhomme, car ce devait en être un, avait un air impérieux et hautain, exprimant bien le dédain qu'il ressentait à l'endroit de ce bourgeois. Celui-ci, de son côté, conservait l'apparence résolue d'un homme difficile à intimider ou effrayer, d'un homme qui, en fait de noblesse, ne connaît que ceux du mérite et du courage. Peut-être chacun d'eux avait-il conscience des sentiments qui agitaient l'autre, ce fut sans doute ce qui assombrit encore l'expression de leurs regards lorsqu'ils se trouvèrent face à face. « Votre épée, seigneur !» À peine Graham eut-il prononcé ces mots qu'il tressaillit, recula de quelques pas, et, portant la main à la dague qui pendait à sa ceinture, « Vous êtes l'homme dont j'ai tenu le cheval à la porte de l'armurier, vous êtes cet homme, n'est-ce pas ?»« Hors d'ici, chien d'apprenti !» cria l'autre. « Oui, c'est toi, je te reconnais bien à présent, rugit Graham, enfin je vais me venger, hein, que personne n'essaye de nous séparer, ou je le tue !» Et, tirant son poignard, il se rua sur l'étranger. Celui-ci, tout en dévisageant son interlocuteur, avait déjà mis l'épée à la main. Il emporta une estocade à son assaillant, mais le poignard que Graham brandissait de la main gauche était une de ces dagues dont on se servait alors pour parer les coups de ce genre. Il détourna aussitôt l'épée du gentilhomme. Un corps à corps s'ensuivit où la dague tomba à terre. Graham parvint alors à arracher à son adversaire son épée et il la lui plongea dans la poitrine. Comme il la retirait, elle se brisa en deux et la pointe resta plantée dans le cœur du séducteur d'Alice. Tout cela fut si rapide que les spectateurs n'eurent pour ainsi dire pas le temps de s'interposer. Mais le vaincu était à peine tombé qu'un tumulte inouï éclata. L'air en fut ébranlé. Le valet du gentilhomme tué criait que son maître, un noble seigneur, avait été attaqué et égorgé par un bourgeois. La nouvelle envola aussitôt de bouche en bouche. La cathédrale de Saint-Paul, toutes les auberges, tous les cabarets donnant sur le parvis déversèrent un torrent de cavaliers accompagnés de leurs écuyers. Tous se précipitèrent, l'épée à la main, sur le lieu du meurtre. Avec une égale impétuosité, s'excitant les uns les autres par leurs clameurs et leurs vociférations, les bourgeois et les gens du peuple prirent part à la querelle, et entourant maître Graham au nombre d'une centaine, ils le forcèrent à s'éloigner. En vain, brandissant au-dessus de sa tête le tronçon d'épée qui lui restait à la main, criait-il qu'il voulait mourir à la porte même de la ville pour défendre leur demeure et leur liberté sacrée. Les autres l'entraînèrent, et le tenant toujours au milieu d'eux afin que personne ne pût le toucher, ils se frayèrent un chemin vers le centre de la ville. Le cliquetis des armes, les hurlements, la poussière, la chaleur, la bousculade, les hommes foulés aux pieds, les femmes attirées aux fenêtres par le tumulte de la rue et poussant des cris affreux en reconnaissant dans la foule leurs maris ou leurs amants, le tocsin sonnant à toute volée, la rage passionnée des acteurs de cette scène, tout cela était effrayant.
ceux qui, dans les deux camps, se trouvaient au premier rang, pouvaient seuls faire un usage efficace de leurs armes et combattaient avec fureur. Ceux du second rang, ivres de colère impuissante, cherchaient à s'entretuer par-dessus la tête de ceux placés devant eux et n'arrivaient qu'à atteindre les leurs. Chaque fois que le tronçon d'épée émergeait au-dessus de cet océan de têtes, les cavaliers chargeaient dessus avec une rage nouvelle. Chacune de ces charges produisait d'immenses trouées dans la foule où les chevaux piétinaient des files entières de bourgeois. Mais le rang était si serré que, la marée humaine montant toujours, les vides étaient aussitôt comblés et l'on voyait une masse confuse d'épées, de massues, de bâtons, de panaches brisés, de riches pourpoints en pièces, de cottes en lambeaux, de visages furieux et ensanglantés, tout cela pêle-mêle dans un désordre inextricable. L'intention du peuple était de forcer Graham à se réfugier chez lui et de le défendre jusqu'à l'arrivée des autorités, ou, en tout cas, de gagner du temps pour parlementer. Mais, soit ignorance, soit confusion, on s'arrêta devant son ancienne maison qui était hermétiquement close. On perdit du temps à enfoncer la porte et à faire sortir Hugh de la foule de ses partisans qui l'entouraient. Pendant ce temps, une vingtaine des plus hardis du camp opposé se ruèrent sur le flot qui l'emportait et, atteignant la porte en même temps que lui, arrivèrent à l'isoler de ses défenseurs. « Que Dieu me garde de trahir une cause aussi juste !» s'écria Graham, d'une voix qui finit par être entendue, et se tournant vers ses adversaires, « Je ne demande qu'à mourir sur le seuil de cette maison, qu'un des vôtres, un lâche, a déshonoré. « Point de quartier pour vous, du reste, je n'en demande pas pour moi, tue !» Pendant un instant, la lutte fut désespérée de part et d'autre. Soudain, un coup de feu, tiré d'une fenêtre par une main invisible, atteignit Graham en pleine poitrine et l'étendit reine mort. Un cri douloureux retentit au même moment, et beaucoup de gens dans la foule prétendirent avoir vu un fantôme se glisser derrière la petite croisée de la maison de l'armurier. Un silence de mort se fit, et on emporta avec recueillement le cadavre dans la maison. En quelques minutes, et avant qu'un gros détachement de gardes à cheval eût pu se rassembler, la rue était vide. Ceux qui transportèrent Graham sur son lit tressaillirent en voyant une femme gisant à terre, les mains jointes, devant la fenêtre. On essaya de la rappeler à la vie, mais ce fut en vain. Alors on plaça son corps à côté de celui du bourgeois qui tenait encore dans ses doigts crispés la première et la dernière épée brisée ce jour-là devant Sudgate. Le géant mit une précipitation extrême à prononcer ces dernières paroles et au même instant l'étrange clarté qui remplissait la galerie s'éteignit subitement. Joe Todihai leva involontairement un coup d'œil vers la fenêtre de l'est. Il la vit faiblement éclairée par les premières lueurs du matin. Il tourna de nouveau ses regards vers l'autre fenêtre, celle où s'étaient assis les géants. Elle était vide. Le tonneau de vin avait disparu, et il distingua confusément les deux statues colossales installées, muettes et immobiles, sur leur socle de marbre. Il se frotta les yeux et demeura plus d'une demi-heure comme pétrifié, observant combien le jour se faisait vite. Puis il céda à l'engourdissement qui le gagnait et se laissa aller à un sommeil réparateur. Quand il s'éveilla, il faisait grand jour, le palais était ouvert et des ouvriers s'occupaient activement à faire disparaître les derniers vestiges de la fête de la veille. Joe se glissa doucement en bas du petit escalier et, pareil à un flâneur matinal qui serait entré en passant, il alla se promener successivement devant les deux statues. Et il les reconnaissait bien, c'était bien l'expression exacte de leur physionomie, c'était bien les traits de ces deux compagnons de la nuit. Bien certain de n'avoir été le jouet d'aucune vision, sûr d'avoir vu de ses propres yeux et entendu de ses propres oreilles, il s'en alla, décidé à tout hasard, à se cacher de nouveau dans Guildhall le soir même. Il résolut également de dormir pendant toute la journée, de façon à être bien éveillé et bien attentif, et se promit surtout d'observer les deux statues aux deux instants précis, d'abord où elles s'animeraient, et ensuite où elles reprendraient leur aspect primitif, observation qu'il se reprochait vivement d'avoir négligée. Correspondance à Maître Humphrey. Monsieur Bien que les détails que vous nous avez donnés sur vos amis et vos réunions soient incomplets, je viens de poser ma candidature à l'un des sièges vacants de votre vieille chambre. Ne rejetez pas ma demande sans l'avoir mûrement examinée. Je crois, sur ma foi, que vous le regretteriez. Vous trouverez ici incluse ma carte. Je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais à rougir de mon nom. Je passe généralement pour un garçon très bien élevé et de beaucoup d'esprit, et je tâche de me montrer digne de cette réputation. Si vous avez besoin de références, adressez-vous à mon cercle, on vous dira quelle sorte de conversation est la mienne. Demandez si je n'ai pas la voix qu'il faut pour plaire à votre ami le sourd ou pour me faire entendre de lui, et si toutefois il est au monde quelque chose qu'il soit capable d'entendre. En deux mots, monsieur, si vos votes m'élèvent à l'un de ces sièges vacants, vous aurez parmi vous un homme possédant un fond de connaissances mondaines qui vous surprendra. Je pourrai vous initier à certains détails sur quelques-unes des plus jolies femmes de la noblesse, vous raconter certaines histoires touchant au high life, au pur gratin en un mot. Il n'est pas un homme ayant eu une affaire d'honneur depuis 25 ans dont je ne sache le nom. Je connais les détails les plus circonstanciés sur tous les scandales survenus de nos jours, soit sur un champ de course, soit autour d'une table de jeu, soit n'importe où. On m'appelle la chronique mondaine. Si vous m'admettez parmi vous, sur mon âme, vous pourrez vous vanter d'avoir eu la main heureuse. Une idée dont je vous félicite, et qui est grande comme le monde, c'est de ne révéler à personne le lieu de votre retraite. J'ai essayé d'en faire autant, mais l'inquiétude générale à mon égard a été telle qu'on a fini par me découvrir. Quant à votre ami le sourd, qui lui n'a jamais dit son nom, c'est un garçon avisé dont je serais heureux de faire la connaissance. Dites-le lui, je vous en prie, et faites-lui en même temps tous mes compliments. Quel drôle de corps vous deviez être quand vous étiez enfant. C'est original, cette histoire de l'image, dans votre premier chapitre. Pas extrêmement folâtre, mais écrit avec de l'esprit et du chic. Dans ce genre-là, je crois que j'arriverai à de grands effets. Je ferai des choses très nature. Qu'en pensez-vous? J'attends avec anxiété votre second chapitre pour savoir si vos amis viennent chez vous à vos frais, ce qui me paraît plus que probable. S'il en est ainsi, je connais un charmant garçon, excellent camarade et fort agréable en société, qui serait heureux de se joindre à vous. Il y a quelques années, il a servi de second à beaucoup de boxeurs. Lui-même a boxé un match d'amateurs. Depuis, il a beaucoup conduit à quatre. À plusieurs reprises, il a brisé tout le réverbère du côté droit d'Oxford Street. 6 fois, il a arraché toutes les sonnettes dans Bloomsbury Square, sans compter le nombre incalculable de fois où il a fermé les conduites de gaz des principales rues. Non, comme homme du monde, il n'a pas son pareil. Et je peux dire qu'après moi, il n'y a personne qui pût mieux faire votre affaire. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, etc., etc. Maître Humphrey a le regret d'informer ce correspondant que sa demande a été rejetée, ainsi que celle de son ami.